Lizzie présente Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. Lue par Flore Lurienne. À Denise et à Simon. Introduction. Alambics existentiels. En 2006, Patrick Bouchain, invité à représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise, avait pris tout le monde de court en décidant de transformer le pavillon d'exposition en lieu d'habitation durant les 3 mois que durerait la manifestation. Pour cela, il avait donné carte blanche au jeune collectif Exist, qui avait réussi à nicher dans ce classique et intimidant temple à colonnades un fantastique caravansérail baptisé Metavilla. Un dortoir, dans une structure tubulaire, une vaste cuisine salle à manger, un atelier, une plateforme sur le toit avec sauna et micro-piscine afin de profiter de la vue sur les arbres environnants. Les préparatifs avaient fourni à l'équipe l'occasion de chahuter copieusement les organisateurs. Par exemple, les participants pouvaient acheter sur le budget de l'exposition des ordinateurs et des rétroprojecteurs, mais pas de la vaisselle, des fourneaux, des draps et des oreillers. Pourquoi est-il plus proche de l'architecture d'acheter un ordinateur qu'un matelas ? Pourquoi montrer des images est-il plus compréhensible que manger ensemble ? Après l'ouverture, une émissaire du groupe allait chaque jour présenter au directeur de la Biennale une liste des invités qui pourraient entrer gratuitement. Comme tous mécènes bénéficiaient de l'entrée libre, Bouchain et sa bande avaient inscrit tous leurs amis qui avaient versé 1 euro. Le malheureux homme finit par refuser de voir une seule liste de plus et se contenta de passer de temps en temps au pavillon pour souffler et boire un martini. Les occupants de la Metavilla s'approvisionnaient chez les commerçants vénitiens. À 100 mètres des Giardini où se tenait la Biennale, on leur livrait du pain tous les matins. Ils faisaient le ménage, la lessive. Ils n'avaient établi la programmation du lieu que pour 1 semaine sur 2, de façon à laisser toute sa place à l'inattendu. C'était une vraie maison, se souvient l'architecte. Quand on entrait, cela sentait bon. Tiloche cuisinait, il y avait ceux qui se lèvent tard, qui étaient encore en train de prendre leur petit déjeuner. De prime abord, pour les visiteurs, cela ne paraissait pas sérieux. Le public était surpris d'entrer et de nous voir vivre. La réaction était souvent « ce n'est que ça ?» Puis « vous avez raison, il n'y a que cela », comme le collectif et Patrick Bouchain le rapportent dans l'ouvrage « Construire en habitant ». De ce « que cela », j'ai eu envie de faire un livre, en m'attendant moi aussi à ce que cela ne paraisse pas sérieux. Parler du chez-soi, de ce que nos maisons représentent dans nos vies, de ce qu'elles rendent possible, de nos aspirations en matière d'habitat. Quand ce sujet ne semble pas dénué du moindre intérêt, il suscite une certaine défiance, comme si le simple fait de s'en préoccuper nous menaçait d'un embourgeoisement fatal. Pour avoir chroniqué un livre de photographies de Julien Grégorio, Squat, Genève 2002-2012, qui rendait compte de l'histoire particulièrement riche des squats dans ma ville natale, je m'étais ainsi attiré le commentaire furieux sur Twitter d'un anarchiste suisse qui me disait qu'on n'avait pas besoin d'un catalogue IKEA des squats. On insiste, à raison ô combien, sur la nécessité de se réapproprier l'espace public. Mais on l'oppose de façon simpliste à un univers domestique qui, dans l'esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de replis frileux, d'avachissement devant la télévision en pantoufles Mickey, d'accumulation compulsive d'appareils électroménagers et d'indifférence résolue au monde. Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Or, dans une époque aussi dure et désorientée, Il me semble au contraire qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence, à repartir de ses actions, à peine des actions en réalité, et de ses plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude, ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacres et d'animosité, parfois de violence dans un monde à l'horizon bouché, la maison desserre l'étau. Elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs. Bien sûr, on pourra hurler à l'individualisme, mais j'aime assez l'image à laquelle recourt l'architecte américain Christopher Alexander dans l'ouvrage « A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction ». Si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, attendre d'elle qu'elle apporte une contribution à la vie collective revient à attendre d'un homme qui se noie, qu'il en sauve un autre. Au départ, il y avait mon envie de défendre ces plages de temps où on n'est plus là pour personne, dont j'ai pour ma part un besoin absolu, ce qui suscite l'incompréhension ou la désapprobation de mon entourage, ce que l'on verra au chapitre 1. J'ai aussi voulu consacrer quelques passages au chapitre 2 à amender ma description des bienfaits de la réclusion domestique en tenant compte des chamboulements qui provoquent Internet et les réseaux sociaux, territoire où je déploie, comme beaucoup d'autres, une activité tout à fait déraisonnable. Mais dans la maison se projettent aussi certains des problèmes les plus brûlants auxquels nous sommes confrontés. Avec la hausse des prix vertigineuse qui s'est produite au cours des 15 dernières années, la quête d'un logement est devenue une entreprise qui expose la majeure partie de la population à la violence des inégalités et des rapports de domination. Le chapitre 3 abordera la difficulté de se loger, ou de se loger correctement, que chacun tente de déjouer comme il peut, entrave, contraint et exténue des millions d'existences. On reste rêveur en imaginant à quoi ressembleraient nos vies si l'espace était une denrée abondante et accessible, y compris dans les grandes villes. De façon moins évidente, mais également cruciale, ce qui manque pour pouvoir s'ancrer dans le monde n'est pas seulement l'espace, mais aussi le temps. Pour se laisser dériver entre ces quatre murs, il faut disposer d'une quantité généreuse de temps. Cesser de compter les heures et les minutes. Or, nous subissons la rigueur d'une discipline horaire impitoyable. De surcroît, nous avons intégré l'idée que notre temps était une denrée inerte et uniforme qu'il s'agissait de remplir, de valoriser et de rentabiliser. Ce qui nous maintient sur un qui-vive permanent. La culpabilité en embuscade, c'est ce que nous verrons au chapitre 4. Impossible par ailleurs de ne pas voir dans une habitation le lieu d'un rapport de force féroce, celui qu'engendre la simple nécessité de l'entretenir. Considérant le ménage comme une tâche indigne et ingrate, on le délègue aux catégories dominées, sans trop se soucier des conditions d'existence auxquelles cette spécialisation les condamne. Dans les pays où la domesticité a disparu ou quasiment disparu, ce travail incombe aux femmes de ménage, mais surtout aux femmes en général, depuis que le XIXe siècle a imposé du haut en bas de l'échelle sociale la figure de la fée du logis, que nous décrypterons au cours du chapitre 5. Plus largement, l'image d'une féminité vouée à l'animation de l'univers domestique, seul lieu possible de son plein épanouissement, conserve une prégnance et une capacité de renouvellement remarquables.